Chapitre 257. L'épitaphe de Porthos. Aramis, silencieux, glacé, tremblant comme un enfant craintif, se releva en frissonnant de dessus cette pierre. Un chrétien ne marche pas sur des tombes. Mais, capable de se tenir debout, il était incapable de marcher. On eût dit que quelque chose de Porthos mort venait de mourir en lui. Ces Bretons l'entourèrent. Aramis se laissa aller à leurs étreintes, et les trois marins, le soulevant, l'emportèrent dans le canot. Puis, l'ayant déposé sur le banc, près du gouvernail, ils forcèrent de rames, préférant s'éloigner en nageant à hisser la voile qui pouvait les dénoncer. Sur toute cette surface rasée de l'ancienne grotte de Locmaria, sur cette plage aplatie, un seul monticule attirait le regard. Aramis n'en put détacher ses yeux, et de loin, en mer, à mesure qu'il gagnait le large, la roche menaçante et fière lui semblait se dresser, comme naguère se dressait Porthos, et lever au ciel une tête souriante et invincible, comme celle de l'honnête et vaillant ami, le plus fort des quatre, et cependant le premier mort. Étrange destinée de ces hommes d'airain, le plus simple du cœur allié au plus astucieux, la force du corps guidée par la subtilité de l'esprit, et dans le moment décisif, lorsque la vigueur seule pouvait sauver esprit et corps, une pierre, un rocher, un poids vil et matériel triomphait de la vigueur et, s'écroulant sur le corps, en chassait l'esprit. Digne Porthos, né pour aider les autres hommes, toujours prêt à se sacrifier au salut des faibles, comme si Dieu ne lui eût donné la force que pour cet usage, en mourant, il avait cru seulement remplir les conditions de son pacte avec Aramis, pacte qu'Aramis cependant avait rédigé seul, et que Porthos n'avait connu que pour en réclamer la terrible solidarité. Noble Porthos, à quoi bon les châteaux regorgeant de meubles, les forêts regorgeant de gibier, les lacs regorgeant de poissons, et les caves regorgeant de richesses? À quoi bon les laquais aux brillantes livrées, et, au milieu d'eux, Mousqueton, fier du pouvoir délégué par toi? Ô noble Porthos, soucieux entasseur de trésors, fallait-il tant travailler à adoucir et dorer ta vie pour venir, sur une plage déserte, aux cris des oiseaux de l'océan, t'étendre, les eaux écrasées sous une froide pierre? Fallait-il enfin, noble Porthos, amasser tant d'or pour n'avoir pas même le distique d'un pauvre poète sur ton monument? Vaillant Porthos, il dort sans doute encore, oublié, perdu, sous la roche que les pâtres de la lande prennent pour la toiture gigantesque d'un dolmen. Et tant de bruyères frileuses, tant de mousses caressées par le vent amer de l'océan, tant de lichens vivaces ont soudé le sépulcre à la terre que jamais le passant ne saurait imaginer qu'un pareil bloc de granit ait pu être soulevé par l'épaule d'un mortel. Aramis, toujours pâle, toujours glacé, le cœur aux lèvres, Aramis regarda jusqu'au dernier rayon du jour la plage s'effaçant à l'horizon. Pas un mot ne s'exhala de sa bouche, pas un soupir ne souleva sa poitrine profonde. Les Bretons, superstitieux, le regardaient en tremblant. Ce silence n'était pas d'un homme, mais d'une statue. Cependant, aux premières lignes grises qui descendirent du ciel, le canot avait hissé sa petite voile qui, s'arrondissant au baiser de la brise et s'éloignant rapidement de la côte, s'élança bravement, le cap sur l'Espagne, à travers ce terrible golfe de Gascogne, si fécond en tempête. Mais une demi-heure à peine après que la voile eut été hissée, les rameurs, devenus inactifs, se courbèrent sur leurs bancs et, se faisant un garde-vue de leurs mains, se montrèrent les uns aux autres un point blanc qui apparaissait à l'horizon, aussi immobile que l'est en apparence une mouette bercée par l'insensible respiration des flots. Mais ce qui eût semblé immobile à des yeux ordinaires marchait d'un pas rapide pour l'œil exercé du marin. Ce qui semblait stationnaire sur la vague rasait les flots. Pendant quelque temps, voyant la profonde torpeur dans laquelle était plongé le maître, ils n'osèrent le réveiller et se contentèrent d'échanger leurs conjectures d'une voix basse et inquiète. Aramis, en effet, si vigilant, si actif, Aramis, dont l'œil comme celui du lynx veillait sans cesse et voyait mieux la nuit que le jour, Aramis s'endormait dans le désespoir de son âme. Une heure se passa ainsi, pendant laquelle le jour baissa graduellement, mais pendant laquelle aussi le navire en vue gagna tellement sur la barque que Goennec, un des trois marins, se hasarda de dire assez haut « Monseigneur, on nous chasse !» Aramis ne répondit rien, le navire gagnait toujours. Alors, d'eux-mêmes, les deux marins, sur l'ordre du patron Yves, abattirent la voile, afin que ce seul point, qui apparaissait sur la surface des flots, cessât de guider l'œil ennemi qui les poursuivait. De la part du navire en vue, au contraire, la poursuite s'accéléra de deux nouvelles petites voiles que l'on vit monter à l'extrémité des mâts. Malheureusement, on était au plus beau et au plus long jour de l'année, et la lune, dans toute sa clarté, succédait à ce jour néfaste. La balancelle qui poursuivait la petite barque, vent arrière, avait donc une demi-heure encore de crépuscule et toute une nuit de demi-clarté. « Monseigneur, monseigneur, nous sommes perdus !» dit le patron. « Regardez, ils nous voient, quoique nous ayons cargué nos voiles. » « Ce n'est pas étonnant, » murmura un des matelots, « puisqu'on dit que, avec l'aide du diable, les gens des villes ont fabriqué des instruments avec lesquels ils voient aussi bien de loin que de près, la nuit que le jour. » Aramis prit au fond de la barque une lunette d'approche, la mit silencieusement au poing et la passant au matelot. « Tenez, » dit-il, « regardez !» Le matelot hésita. « Tranquillisez-vous, dit l'évêque, il n'y a point péché, et s'il y a péché, je le prends sur moi. » Le matelot porta la lunette à son œil et jeta un cri. Il avait cru que, par un miracle, le navire qui lui apparaissait à une portée de canon à peine avait subitement et d'un seul bond franchi la distance. Mais en retirant l'instrument de son œil, il vit que, sauf le chemin que la balancelle avait pu faire pendant ce court instant, il était encore à la même distance. « Ainsi, murmura le matelot, ils nous voient comme nous les voyons. »« Ils nous voient, dit Aramis. » Et il retomba dans son impassibilité. « Comment ils nous voient ? » fit le patron Yves. « Impossible !»« Tenez, patron, regardez, » dit le matelot. Et il lui passa la lunette d'approche. « Monseigneur m'assure, demanda le patron, que le diable n'a rien à faire dans tout ceci ?» Aramis haussa les épaules. Le patron porta la lunette à son œil. « Oh, monseigneur, dit-il, il y a miracle, ils sont là, il me semble que je vais les toucher. 25 hommes au moins. Ah, je vois le capitaine à l'avant, il tient une lunette comme celle-ci et nous regarde. Ah, il se retourne, il donne un ordre. Ils roulent une pièce de canon à l'avant. Ils la chargent, ils la pointent. Miséricorde, ils tirent sur nous !» Et par un mouvement machinal, le patron écarta sa lunette et les objets, repoussés à l'horizon, lui apparurent sous leur véritable aspect. Le bâtiment était encore à la distance d'une lieue à peu près. Mais la manœuvre annoncée par le patron n'en était pas moins réelle. Un léger nuage de fumée apparut au-dessous des voiles, plus bleu qu'elle et s'épanouissant comme une fleur qui s'ouvre. Puis, à un mille à peu près, du petit canot, on vit le boulet découronner deux ou trois vagues, creuser un sillon blanc dans la mer et disparaître au bout de ce sillon, aussi inoffensif encore que la pierre avec laquelle, en jouant, un écolier fait des ricochets. C'était à la fois une menace et un avis. « Que faire ?» demanda le patron. « Ils vont nous couler, » dit Goennec. « Donnez-nous l'absolution, monseigneur. » Et les marins s'agenouillèrent devant l'évêque. « Vous oubliez qu'ils vous voient ?» dit celui-ci. « C'est vrai, » dirent les marins, honteux de leur faiblesse. « Ordonnez, monseigneur, nous sommes prêts à mourir pour vous. » « Attendons, » dit Aramis. « Comment attendons ? » ?»« Oui, ne voyez-vous pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que si nous essayons de fuir, ils vont nous couler ?»« Mais peut-être, » hasarda le patron, « peut-être qu'à la faveur de la nuit, nous pourrons leur échapper. »« Oh, » dit Aramis, « ils ont bien quelques feux grégeois pour éclairer leur route et la nôtre. » Et en même temps, comme si le petit bâtiment eût voulu répondre à l'appel d'Aramis, un second nuage de fumée monta lentement au ciel et du sein de ce nuage jaillit une flèche enflammée qui décrivit sa parabole pareille à un arc-en-ciel et vint tomber dans la mer où elle continua de brûler, éclairant l'espace à un quart de lieue de diamètre. Les Bretons se regardèrent épouvantés. « Vous voyez bien, » dit Aramis, « que mieux vaut les attendre. » Les rames échappèrent aux mains des matelots et la petite barque, cessant d'avancer, se berça immobile à l'extrémité des vagues. La nuit venait, mais le bâtiment avançait toujours. On eût dit qu'il redoublait de vitesse avec l'obscurité. De temps en temps, comme un vautour au cou sanglant dresse la tête hors de son nid, le formidable feu grégeois s'élançait de ses flancs et jetait au milieu de l'océan sa flamme comme une neige incandescente. Enfin, il arriva à la portée du mousquet. Tous les hommes étaient sur le pont, l'arme au bras, les canonniers à leurs pièces, les mèches brûlées. On eût dit qu'il s'agissait d'aborder une frégate et de combattre un équipage supérieur en nombre, et non de prendre un canot monté par quatre hommes. « Rendez-vous !» cria le commandant de la balancelle à l'aide de son porte-voix. Les matelots regardèrent Aramis. Aramis fit un signe de tête. Le patron Yves fit flotter un chiffon blanc au bout d'une gaffe. C'était une manière d'amener le pavillon. Le bâtiment avançait comme un cheval de course. Il lança une nouvelle fusée grégeoise qui vint tomber à 20 pas du petit canot et qui le mit en lumière mieux que n'eût fait un rayon du plus ardent soleil. « Au premier signe de résistance !» cria le commandant de la balancelle. « Feu !» Les soldats abaissèrent leurs mousquets. « Puisqu'on vous dit qu'on se rend !» cria le patron Yves. « Vivant, vivant, capitaine !» crièrent quelques soldats exaltés. « Il faut les prendre vivants !»« Eh bien oui, vivants !» dit le capitaine. Puis, se tournant vers les Bretons, « Vous avez tous la vie sauve, mes amis » cria-t-il, « sauf monsieur le chevalier d'Herblay. » Aramis tressaillit imperceptiblement. Un instant, son œil se fixa sur les profondeurs de l'océan, éclairé à sa surface par les dernières lueurs du feu grégeois, lueurs qui couraient au flanc des vagues, jouaient à leurs cimes comme des panaches et rendaient plus sombres, plus mystérieuses et plus terribles encore les abîmes qu'elles couvraient. « Vous entendez, monseigneur ? » firent les matelots. « Oui. Coordonnez-vous. Acceptez. Mais vous, monseigneur ? » Aramis se pencha plus avant et joua du bout de ses doigts blancs et effilés avec l'eau verdâtre de la mer, à laquelle il souriait comme à une amie. « Acceptez !» répéta-t-il. « Nous acceptons !» répétèrent les matelots. « Mais quel gage aurons-nous » « La parole d'un gentilhomme, » dit l'officier. « Sur mon grade et sur mon nom, je jure que tout ce qui n'est point monsieur le chevalier d'Herblay aura la vie sauve. Je suis lieutenant de la frégate du roi La Pomone et je me nomme Louis-Constant de Précigny. » D'un geste rapide, Aramis, déjà courbé vers la mer, déjà à demi penché hors de la barque, d'un geste rapide, Aramis releva la tête, se dressa tout debout et, l'œil ardent, enflammé, le sourire sur les lèvres. « Jetez l'échelle, messieurs, » dit-il, comme si c'eût été à lui qu'appartint le commandement. On obéit. Alors Aramis, saisissant la rampe de corde, monta le premier. Mais, au lieu de l'effroi que l'on s'attendait à voir paraître sur son visage, la surprise des marins de la balancelle fut grande lorsqu'ils le virent marcher au commandant d'un pas assuré, le regarder fixement et lui faire de la main un signe mystérieux et inconnu, à la vue duquel l'officier pâlit, trembla et courba le front. Sans dire un mot, Aramis alors leva la main jusque sous les yeux du commandant et lui fit voir le chaton d'une bague qu'il portait à l'annulaire de la main gauche. Et, en faisant ce signe, Aramis, drapé dans une majesté froide, silencieuse et hautaine, avait l'air d'un empereur donnant sa main à baiser. Le commandant, qui, un instant, avait relevé la tête, s'inclina une seconde fois avec les signes du plus profond respect. Puis, étendant à son tour la main vers la poupe, c'est-à-dire vers sa chambre, il s'effaça pour laisser Aramis passer le premier. Les trois Bretons qui avaient monté derrière leur évêque se regardaient stupéfaits. Tout l'équipage faisait silence. 5 minutes après, le commandant appela le lieutenant en second qui remonta aussitôt en ordonnant de mettre le cap sur la corogne. Pendant qu'on exécutait l'ordre donné, Aramis reparut sur le pont et vint s'asseoir contre le bastingage. La nuit était arrivée. La lune n'était point encore venue, et cependant Aramis regardait opiniâtrement du côté de Belle-Île. Yves s'approcha alors du commandant, qui était revenu prendre son poste à l'arrière, et bien bas, bien humblement. « Quelle route suivons-nous donc, capitaine ? » demanda-t-il. « Nous suivons la route qu'il plaît à monseigneur, » répondit l'officier. Aramis passa la nuit accoudé sur le bastingage. Yves, en s'approchant de lui, remarqua, le lendemain, que cette nuit avait dû être bien humide, car le bois sur lequel s'était appuyée la tête de l'évêque était trempé comme d'une rosée. Qui sait, cette rosée, c'était peut-être les premières larmes qui fussent tombées des yeux d'Aramis. Quelle épitaphe eût valu celle-là? Bon Porthos.